En ce mardi 14 septembre, je vous souhaite la bienvenue à la nouvelle mouture de l'aérospatiale. Mon nom est Julie Gagné. C'est moi qui vais remplacer Jean-Pierre Gay et Richard Sainte-Marie dans cette toute nouvelle formule. Une formule, ma foi, fort dynamique avec de nombreux collaborateurs. Et d'ailleurs, j'ai avec moi une ancienne collaboratrice qui continuera cette année avec nous, Claude Chevalot. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
J'ai un petit chat dans la gorge.
T'as un petit
chat
dans la
gorge? Ça va très bien, oui.
Et le petit chat se porte bien,
oui,
tout est merveilleux.
Oui, le petit chat va bien, oui, tout va très bien.
Excellent. On aura aussi aujourd'hui avec nous Éric Dorion, qui nous présentera un artiste audio à chacune des semaines. Malheureusement, il n'est pas encore arrivé. On peut se permettre de rire un peu de son
Dorion,
retard.
Dorion, Dorion, Dorion!
Où es-tu? Où es-tu? Arrive, s'il te plaît. Mais quand même, avant de débuter l'émission, Claude, tu voulais faire un petit bonjour à Jean-Pierre et Richard.
Ah oui, je voulais saluer Jean-Pierre Gay et Richard Sainte-Marie. S'ils nous écoutent, et leur dire qu'en souvenir d'une tradition, presque tradition que j'avais instaurée, j'ai acheté du chocolat tout à l'heure que nous allons partager et manger à votre santé.
Manger goulûment.
Manger goulûment à votre santé, voilà.
Alors, on pense à vous fort fort. On vous remercie d'ailleurs d'avoir donné naissance à cette émission. Aujourd'hui, de quoi on parle? Ben, l'œil de poisson fête son 25e anniversaire cette année. Ils nous ont donné la colonie à Deschambault cet été. Ils nous donnent à intervalles réguliers des affiches qui sont produites par des duos de jeunes artistes de Québec. Mais aussi, en ce moment, jusqu'au 10 octobre, c'est la maison. L'œil de poisson nous reçoit carrément dans sa maison pour des performances, pour des concerts. Ça bouge, il y a un événement multidisciplinaire. On en jase avec Isabelle Laverdière, qui est coordonnatrice du 25e anniversaire de l'Œil de poisson. On rencontre aussi Richard Martel, qui va nous parler de la 16e édition de la Rencontre internationale d'art performance. Là encore, ça va bouger énormément, des gens d'un peu partout dans le monde. Et toi, Claude, tu nous parles?
Moi, je vais vous parler de l'exposition au Musée national des beaux-arts du Québec, « Femmes artistes, l'éclatement des frontières ». 1965 à 2000, ça fait suite à l'exposition qu'il y avait eu l'an dernier, 1900 à 1965, sur les femmes dans l'art, qui était présentée par Esther Trépanier.
Et déjà, on peut dire que tu as beaucoup apprécié
l'exposition. Oui, c'est l'exposition que j'ai vraiment beaucoup aimée.
Et bon, pour commencer l'émission, en attendant l'arrivée de nos invités et ou chroniqueurs, ben pourquoi pas vous faire parler un petit peu d'une exposition qui a cours en ce moment à vue, parce que bien entendu, c'est la rentrée, ça bouge partout à Québec en ce moment. Vendredi dernier était la journée des vernissages, il fallait vraiment avoir un don d'ubiquité pour pouvoir participer à tout.
Et un foie très solide.
Et un foie très solide, effectivement, parce que les vernissages, c'est habituellement assez festif. Donc, j'ai moi envie de vous parler de ce qui se passe à vue en ce moment. Il y a deux expositions, comme à l'habitude. Tout d'abord, il y a Chuck Samuels qui nous présente Before Photography et il y a aussi Christian Barré qui nous présente Car Crash Memories 2, j'aime bien le dire en français, The Sequel. Les deux expositions, disons-le tout de suite, se terminent le 10 octobre. Mais pour commencer, Chuck Samuels, c'est assez amusant. Avec Before Photography, il crée une exposition de photos et de vidéos qui s'articule autour d'un inventaire cinématographique et télévisuel qui date d'avant son initiation à la photographie, initiation qui a été faite par son père. Et comme c'est justement son père qui l'a initié à la photo, ça lui permet d'interroger sa pratique en lien avec sa relation avec son père. Grosso modo, on est accueilli par trois très, très grandes photos qui présentent une photo de Chuck Samuels quand il était jeune, une photo de son père et une photo de sa mère qui, toutes trois, datent d'avant 1967. Ouais. C'est l'année où il a été initié à la photo. Mais le clou vraiment de l'exposition, ce sont les 114 photos qui sont tirées de films ou d'émissions d'avant, encore 1967,
wow,
qui représentent des personnages avec des appareils photo.
Wow!
Et là, ça, on se dit, bon, ça a un petit côté collectionneur. C'est une recherche qui est quand même vraiment phénoménale. Là, parce
phénoménale et pointue, tu sais.
Pardon?
Phénoménale et pointue.
Phénoménale et pointue, c'est colossal, en fait, carrément. Mm-hmm. Mais ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que quand on s'approche de ces photographies-là, on s'en rend pas compte tout de suite, mais il a remplacé le visage de chaque personnage qui tient l'appareil photo par le sien. Donc, c'est uniquement son visage à lui et celui des autres qu'on voit sur les images. Donc, c'est vraiment très drôle. Parfois, ça a des allures de Monty Python. Hein, okay, tu sais comment les Monty Python avaient le don de faire tous les personnages
absolument,
féminins,
ouais,
un petit côté grotesque, un côté qui est vraiment très drôle.
C'est vraiment
aussi
placé dans l'histoire, lui. Il a décidé qu'il était dans tout cet historique, toute cette collection.
Exactement. Donc, c'est vraiment une manière où lui, aussi pour lui de dédoubler sa personne, de s'interroger sur son identité, tout en nous faisant rire parce que chacune des photos est plus tordante
c'est jusqu'au
que
10 octobre.
La précédente. C'est jusqu'au 10 octobre. Juste pour continuer, en fait, là-dessus, c'est, par exemple, c'est un torse d'homme, un torse de femme, habillé ou nu. Mm-hmm. C'est pas grave, carrément, il y a une photo où c'est une femme nue avec le visage de Chuck Samuels. C'est vraiment très drôle. Il est habillé en cowboy, en policier, il va faire un extraterrestre, tout le kit. C'est vraiment très bien fait aussi, parce que souvent, bon, des collages comme ça, où on place notre photo sur une photographie déjà
existante. C'est pas juste drôle, c'est bien fait, bien réalisé.
Oui, c'est ça, tu sais, ça peut avoir l'air cheap, tandis que dans ce cas-là, là, bon, des fois c'est un petit peu boiteux, la tête est un peu trop grosse, mais ça fait quand même rire, mais c'est vraiment bien fait, un beau jeu de lumière et de montage. Ajoutons à ces photographies-là deux vidéos. Une vidéo qui présente des extraits de vieux films sur lesquels il fait comme une sorte de surimpression de son visage
encore
en train
fois,
de regarder les films. Mais surtout la dernière vidéo qui est particulièrement jouissive où il se présente, il est devant un appareil photo. Il parle, en fait, il nous raconte une situation de son père qui était mourant et qui va le voir à l'hôpital, et son père lui dit « Ah, tiens, tu as maintenant une barbe. » Et là, l'image se dédouble, et c'est Chuck Samuels qui nous raconte la même histoire, mais en même temps, ce qui fait que c'est particulièrement incompréhensible. En même temps que tout ça, il y a un appareil photo qui prend des photos de lui.
C'est une mise en abîme, là.
C'est vraiment une mise en abîme, okay. Un gros questionnement sur son identité, finalement. À la fin, il y a un petit moment où on finit par comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que son père lui a dit avant de mourir. Donc,
Il donne la clé.
Il a vraiment trouvé une bonne manière de jouer et de dramatiser sur un sujet aussi sur la mort, qui est celle de son père, sur l'identité. Donc tout ça, en nous faisant rire, c'est vraiment bien réussi. Peut-être dernier petit clin d'œil rapidement sur ce qui se passe à vue. Christian Barré qui nous présente son Car Crash Memories 2 de sequel. Ça fait vraiment cinématographique. Où il a demandé à des modèles de simuler la réaction qu'ils auraient pendant un accident de voiture. On voit tous les modèles. Ce sont pas des mannequins, ce sont pas des professionnels. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, exactement. On est placé de côté avec un gros un sac gonflable qui est dégonflé. Et donc ils miment leur réaction. Ça a un aspect quand même assez humoristique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'image est complètement décontextualisée. On voit pas la voiture, on voit pas le volant, c'est seulement ces personnages-là devant un fond gris.
J'aime bien ce qu'il fait,
moi aussi, j'aime bien ça parce qu'on dirait des photos publicitaires. En plus, ces photos-là, ce sont des panneaux lumineux, comme il y a dans les abribus, par exemple.
Ah, ouais? OK.
Oui, donc il joue beaucoup sur la notion de publicité versus d'œuvre d'art. C'est, ma foi, fort intéressant. Et c'est présenté à vue. Et là,
Monsieur Dorion, rejoint
par Éric Dorion qui a réussi à arriver. Bonsoir, Éric.
Je suis contente de te voir, Julie.
Je suis vraiment contente de te voir.
Pour la première, j'arrive 5 minutes en retard. Ça me fait plaisir.
merci d'arriver en retard.
C'est
mais
gentil
non,
d'avoir contribué comme ça à détendre l'atmosphère.
Ça me fait plaisir. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait?
Ben en fait, moi, je voulais savoir de qui tu nous parlais cette semaine.
Écoute, c'est un album qui est sorti en janvier 2010. Un album qui s'appelle Tricéphale. C'est une initiative du tremplin d'actualisation. OK, je répète, tremplin d'actualisation de la poésie, un regroupement qui est à Québec, c'est entre autres eux qui sont derrière les soirées de slam et tout. Et pour le projet de ce disque qui s'appelle Tricéphale, je le répète, c'était la proposition, c'était de demander à un auteur poète de Québec, du Québec en fait, parce qu'il y a quelqu'un de Trois-Rivières, quelqu'un de Montréal et le reste de Québec, donc de faire un texte, d'enregistrer le texte. Par la suite, ce texte-là était remis à un artiste audio. L'artiste audio s'inspirait du texte ou utilisait le texte pour faire une pièce. Et par la suite, un troisième, donc là, on est au bicéphale. Et le tricéphale, lui, c'était de remettre le texte et remettre la pièce audio. Le remettre à un DJ ou à un artiste qui fait de la musique électronique. Et donc, sur le disque, on retrouve finalement les déclinaisons. Donc on entend le texte original, on entend la pièce en art audio et on entend la pièce qui est de musique électronique. C'est une écoute, l'album peut s'avérer un peu ardu à écouter, dans le sens
que ça demande énormément de concentration.
Ben la concentration, puis également aussi, c'est qu'on passe trois univers là, tu sais. Ouais. On passe à un texte nu. On va à une pièce qui va être complètement abstraite, donc la pièce art audio, et par la suite une pièce carrément de musique électronique qui rappelle le dance floor. Pour aujourd'hui, ben les pièces qu'on va entendre, c'est les pièces en art audio.
Ben voyons
puis,
donc.
Puis on retrouve un Éric Dorion sur cet album-là.
Ben voyons
fait,
donc.
Ben, oui, c'est un
plus pur des hasards.
Mon but, ça va de plugger toujours une de mes pièces pour que j'aie plein d'argent de la Socan à la fin de l'année. Non, ça c'est une blague. Mais pour commencer, on va entendre À l'autre bout, il pleuvait. C'est une composition audio de Chantal Dumas. Chantal, elle a été longtemps à Québec. Maintenant, elle est à Montréal. C'est une artiste audio qui travaille beaucoup l'art radiophonique. C'est une fille qui fait de l'installation aussi. Une artiste incontournable, je crois, dans le domaine de l'art audio. Donc, on entend À l'autre bout, il pleuvait.
Sur les ondes de CKRL.
Voilà, tout le monde a dansé.
Moi, je suis tellement essoufflée, là.
Bon, Colin, c'était le dance floor. Donc, c'était Chantal Dumas avec avec la pièce attendez un peu que je me à l'autre bout il pleuvait qui fait partie de l'album Tricéphale. Au courant de l'émission, on va entendre une pièce qui s'appelle Shrapnel Ballade de Éric Dorion. On va entendre également c'est toujours le fun de plugger son nom. ensuite, on va entendre également une pièce de Hélène Prévost qui s'appelle Attrape. Et puis voilà, il y aura une pièce de Sabi Gassonnaise également. Ça sera pour le reste de l'émission le choix en art audio pour cette fabuleuse série qui commence.
Ben oui, qui commence
aujourd'hui. Excusez-moi. Est-ce que tu peux me dire de quel texte il s'agissait dans le cas de la pièce de Chantal?
Dans le cas de Chantal, c'était le texte, attends un peu, j'y vais. C'est un écrivain qui s'appelle Michel Plot. Son texte était « Je connais trop peu le monde ». On n'a pas entendu le texte parce que c'était un peu l'exercice.
C'est-à-dire
s'inspirer du texte ou utiliser des bribes du texte. Donc, voilà.
Ben, merci beaucoup, Éric Dorion.
Ça me fait plaisir.
Claude, comme Isabelle Laverdière n'est toujours pas arrivée, on s'est dit que tu avais hâte de parler de l'exposition sur les femmes artistes,
oui,
l'éclatement des frontières au Musée national des Beaux-Arts. Ben, vas-y, lance-toi, on t'écoute avec joie.
Ben, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand Esther Trépanier, la directrice générale du Musée national des Beaux-Arts, est entrée en poste, elle a, une des premières choses qu'elle a annoncées, c'est qu'elle allait faire une grande exposition sur les femmes en art. Et elle a tenu sa parole, puisque l'année dernière, elle nous a présenté la première partie, qui était de 1900 à 1965, les femmes en art, ça s'appelait la conquête de l'espace, où est-ce qu'on traitait plus à ce moment-là de femmes qui revendiquaient le statut d'artiste, donc qui revendiquaient d'être considérées comme des artistes professionnels. On voyait là aussi, bon, le début de l'abstraction, les femmes s'inscrivaient dans les mouvements qui ont marqué l'art contemporain, comme le ready-made puis tout ça. En partir de 1965, on voit, je dirais qu'on voit peut-être une distanciation. En fait, l'art féminin devient peut-être plus distinct qu'il ne l'a été, je dirais, à mon avis en tout cas, dans la première moitié du siècle ou plus que la moitié du siècle.
Probablement lié aussi à comme l'effervescence féministe.
En fait, c'est né à la réalité sociale, à l'effervescence féministe, effectivement. Ils ont choisi de nous présenter ça sous des thèmes, puisque de toute façon, il faut diviser une exposition comme ça. Je dirais que ces thèmes-là en valent d'autres. Ils nous ont divisé ça en figure du corps, ou est-ce que, bon, là, on est entre l'abstraction, la figuration, d'une chose à l'autre, ou est-ce que les femmes ont peut-être commencé à faire, à travailler sur des aspects plus nuancés en faisant des détournements de sens d'objets usuels, où là, on commence à avoir plus de leur action. Il y a l'art introspectif aussi, donc je vais vous nommer peut-être quelques artistes qui illustrent ces propos-là. J'ai beaucoup aimé le documentaire et l'au-delà. Donc, c'était vidéo, photo, où les gens partaient d'une forme documentaire pour aller comme un peu plus loin, donner une résonance poétique un peu à cette approche-là.
L'interprétation plus personnelle.
Oui, c'est ça, plus personnelle, mais plus onirique aussi. Pas seulement tourner vers soi, mais tourner vers la poésie, tourner vers le monde. L'humour, évidemment, on peut imaginer tout de suite que c'est là-dedans qu'on a retrouvé notre ami Claude Gagnon, qui est, évidemment, l'humour avec la charge critique, avec l'analyse, l'humour comme commentaire social. Évidemment, c'est pas la grosse tarte à la crème. Puis, finalement, le regard politique. Donc, toutes ces catégories sont illustrées par des œuvres de différentes personnes, de différentes femmes. Je dirais que c'est quand même une exposition qui est assez exigeante et qui est assez inégale aussi. Il y a des trucs, il y a certains... J'ai trouvé que certaines sections de l'exposition étaient un peu... c'est un peu redondant. Par exemple, tout ce qui était la première partie, là, figure du corps, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de différenciation entre les styles des œuvres qu'ils nous présentaient. C'est un petit peu ça se ressemblait beaucoup. Puis peut-être que c'était le but de l'opération. On a plusieurs œuvres de Francine Simonin, par exemple.
François Sullivan, j'imagine.
François Sullivan, oui, effectivement, ouais. Qui était peut-être, à mon avis, une des pièces les plus intéressantes. C'est « Je parle », numéro 1 de François Sullivan. Puis par la suite, bon, on avait des sections qui étaient beaucoup plus variées, plus intéressantes, plus dynamiques, je dirais. Et avec les œuvres, entre autres, de Marie-Claude Boutiette, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais, Eric.
Non, je ne connais pas du tout.
Elle a fait des petits personnages, souvent dans des cases. Elle a travaillé le textile. Eric rigole parce que je lui demande des petits dessins. Je trouve ça très drôle. Ça,
c'est cute. À quoi ressemble le catalogue? Est-ce que tu l'as vu, le
J'ai
catalogue
d'exposition? J'ai vu le catalogue, ouais. Oui. C'est un très beau catalogue. Ben, en fait, moi, je trouve que les dernières grandes expositions, entre autres, en plus, ce qui touchait à l'art actuel, au Musée national des Beaux-Arts, ils ont produit vraiment des très, très beaux catalogues, que ce soit C'est arrivé près de chez vous ou l'autre dont je ne me rappelle pas. Là, l'autre, tu sais, qui était comme un carnet Moleskine, là. Je me répète plus. C'est sur l'amour, là.
Oui.
Enfin, ce catalogue-là aussi est très, très beau. Là-dedans aussi, l'œuvre vidéo et l'œuvre photo tient une grande place. Et c'est peut-être, à mon avis, Le regard introspectif, je pensais que ça allait être... je sais pas, je craignais un peu ce titre-là ou ce thème-là. Je me disais, bon, qu'est-ce que ça va de l'art nombriliste un peu, là? J'avais un préjugé. Mais ça a été... je pense que c'est probablement la section la plus intéressante. À mon avis, ce sont les œuvres qui sont les plus représentatives de l'évolution du statut de la femme puis de sa place dans la société. J'ai pas eu de méga coup de cœur, c'est-à-dire une chose en particulier, mais de façon générale, c'est une exposition que j'ai trouvée extrêmement enrichissante. Il faut prendre le temps de la voir, comme d'habitude quand on va voir ce genre d'exposition-là. Faites-le pas en rush, une petite demi-heure en passant. Il faut prendre le temps de faire le tour. Puis il y a beaucoup de choses qu'on apprend et des œuvres qu'on voit, qu'on découvre et d'autres qu'on redécouvre. Ben. C'est bien, bien beau.
Ben Claude, merci beaucoup.
Bienvenue.
C'est jusqu'à quand l'exposition, tu disais?
C'est jusqu'au 10 octobre. Écoutez, après le 10 octobre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout finit le 10 octobre.
Tout finit le 10 octobre, effectivement. Éric Dorion, peut-être une autre,
ben alors,
une autre intervention.
La pièce Shrapnel Ballade, qui s'inspire du texte de Sylvie Nicolas. Le texte de Sylvie Nicolas, c'est « saguermonhomme.com ». Mais la pièce a été faite, la pièce audio a été faite par un certain dénommé Éric Dorion.
Ça porte le même nom que toi.
Il n'y a qu'un seul Éric Dorion.
À Québec, on est deux. Il y en a un qui parle d'art audio, puis il y en a un qui en fait.
Ah oui, c'est vrai.
C'est dommage.
Il ressemble pas mal, par exemple, ces gars-là, je pense.
Un beau gros barbu.
OK, oui.
Ouais, tandis que moi, c'est complètement le contraire.
Un grand imberbe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Éric Dorion, sur cette pièce-là? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire?
Trêve de blague. J'ai pris le texte et puis c'est un texte qui est quand même assez évocateur. Parle un peu d'une relation entre une femme et son chum et puis ça virait un peu à une chicane. Puis j'ai pris un peu cette énergie brute là et puis je l'ai transformée. Je l'ai faite en une vision, une certaine façon de cut-up puis de retransfert. Donc ça va donner la pièce que vous allez entendre dans les prochaines secondes.
Sa guerre, son guerre, Shakespeare pour le meilleur, pour le pire,